Vous écoutez France Inter, il est 6h. Le journal Bernadette Chamenaz, bonjour.
Bonjour. Guyane, accord signé hier soir avec l'État. Les élus et le collectif obtiennent que soient actés les 2 milliards d'euros qu'ils demandaient, en plus du milliard déjà obtenu. 2 milliards pour tracer des ambitions pour l'avenir du territoire. Seul nouveau projet concret par rapport au plan d'urgence. Le feu vert du gouvernement pour une cité judiciaire à Cayenne. Ouf de soulagement du MEDEF local. Après un mois de blocage, les barrages routiers vont être levés, sauf celui de la base spatiale de Kourou. En silence mais en colère, une centaine de policiers se sont réunis hier soir place du Trocadéro à Paris, au lendemain de l'attentat sur les Champs-Élysées qui a coûté la vie à leurs collègues et blessé deux autres. Ils demandent plus de moyens alors qu'en à peine un an, les forces de l'ordre ont été 7 fois la cible d'attaque. Sur l'attaquant, Karim Cherfi, ce qu'on sait désormais, c'est qu'il avait un lourd passé de délinquant, condamné pour avoir déjà tiré sur des policiers. 14 ans de prison, sans signe de radicalisation, selon le procureur de Paris, François Molins. Mais depuis janvier, sous le radar de l'antiterrorisme, pour avoir menacé à nouveau de tuer des policiers et pour s'être procuré des armes. Enfin, 15 jours seulement avant l'attaque, il était dans le bureau du juge d'application des peines pour n'avoir pas respecté les conditions de son sursis. Il n'avait alors reçu qu'un rappel à l'ordre. Enfin, outre interrogation, l'étrange revendication de Daesh au nom d'un certain Youssouf le Belge, l'homme qui correspond à cette identité s'est présenté de lui-même à la police d'Anvers, en Belgique, avec un alibi en béton. Alors y a-t-il un autre homme dans la nature, complice de Cherfi ? Pour l'instant, pas de réponse. Pour sécuriser les 67 000 bureaux de vote demain pour le premier tour de la présidentielle, 50 000 policiers et gendarmes et 7 000 militaires sont mobilisés. La campagne officielle s'est terminée à minuit, silence de rigueur sur les ondes. Premier résultat, normalement 20 h demain soir, sauf s'ils sont trop serrés. Et une édition, bien sûr, spéciale à suivre sur France Inter dès 18h. Le gigantesque feu de forêt à Sissac-Médoc en Gironde est maîtrisé. Plus de 1000 hectares de forêt ravagés par les flammes. Une femme pompier a été légèrement brûlée. Des dizaines de pompiers restent sur place. Il faudra sans doute plusieurs jours pour l'éteindre définitivement. Opération main propre dans l'un des plus prestigieux services des douanes, celui des enquêtes et du renseignement. Le patron démis de ses fonctions et deux hauts responsables mis en examen. Au cœur de l'affaire, une saisie record de café de contrebande. 174 000 paquets, une belle prise, mais pas très nette. Elle aurait pu permettre de gonfler les statistiques du service tout en couvrant l'acheminement d'autres marchandises illicites. En sport, Lucas Pouille, qualifié pour le dernier carré du Masters 1000 de Monte Carlo. Alors comment envisage-t-il la demi-finale face à l'Espagnol Alberto Ramos? Sa réponse au micro de Fabrice Abgral.
C'est une bonne opportunité pour aller en finale, mais lui pense la même chose. On joue tous les deux pour notre première finale et on est tous les deux dans le cas où on ne joue pas un des tout meilleurs du circuit. Donc voilà, c'est une opportunité pour nous deux. Je vais me préparer au mieux, essayer de mettre mon jeu en place. Il a battu Murray, il a battu Cilic. Donc c'est qu'il joue vraiment un tennis incroyable cette semaine. Et je sais que ça va être une rencontre difficile, mais je vais me préparer. Physiquement, je me sens très bien. Je suis pas du tout fatigué. Donc ça va être aussi important. Lui, il a fait deux matchs quand même longs où il a eu énormément de rallyes. Et donc il va falloir vraiment, voilà, se préparer à faire une longue et dure bataille, on va dire.
Et dans l'autre demi-finale, on retrouvera Raphaël Nadal qui vise un 10e titre à Monte Carlo. Mais il aura face à lui le Belge Goffin qui vient tout de même de sortir Djokovic. Et puis en Ligue 1, en ouverture de la 34e journée, l'OM revient de Nancy avec le nul 0-0. Pour Marseille, ce sont 2 points de perdu dans la course à l'Europe. Patricia Martin.
Merci Bernadette Chamenaz, vous revenez à 7h30 pour un autre journal. Vous voulez avoir des nouvelles du temps ?
Bien sûr.
Il fait encore un peu frais, mais les températures seront de plus en plus chaudes au cours de la journée et le ciel de plus en plus clair, c'est ce que va nous dire Élodie Calac de Météo France.
La météo avec Massif. Vous avez le pouvoir de réduire le coût de votre prêt immobilier en changeant d'assurance emprunteur. Rendez-vous sur massif.fr.
C'est encore froid ce matin, mais moins qu'hier. Moins 2 degrés à Clermont-Ferrand, moins 1 pour Nevers et Avignon, 2 à Alençon, Agen, Lyon, mais 8 degrés à Lille, Paris, Nice, Bayonne. Les nuages sont très nombreux ce matin entre la Normandie, le bassin parisien, le Nord-Pas-de-Calais, le Nord-Est, avec quelques pluies près des frontières du Nord. Cet après-midi, ça restera encombré et humide entre la Picardie, la Champagne, l'Alsace. On retrouvera quelques éclaircies vers la frontière belge. Même chose de la Normandie jusqu'à la Franche-Comté. En allant vers l'ouest et le sud, là, un beau ciel bleu, un vent sensible quand même dans le sud-est. On aura 13 à 20 degrés sur les régions du nord, 17 à Paris, Besançon, 20 au Sable d'Olonne, 18 à 25 degrés au sud avec 20 à Lyon, 22 à Nîmes et les 25 pour Montauban.
Tous les samedis sur France Inter,
RTS La Première,
à partir de 15h,
RTBF La Première,
la librairie francophone,
Radio-Canada Première,
Emmanuel Kérad.
Des histoires incroyables ce week-end. L'académicien Jean-Christophe Ruffin publie un roman sur le destin épique d'Auguste Beniowski qui deviendra roi de Madagascar dans un contexte improbable. Gaston Paul Effa vous emmènera en Martinique avec Siparis, miraculé de l'éruption volcanique de 1902. Et puis nous parlerons des parfums avec Jean-Claude Elena et Denise Beaulieu.
La librairie francophone, tout à l'heure sur France Inter, à partir de 15h.
Le 6-9 du week-end. Patricia Martin sur France Inter.
Bienvenue donc dans ce 6-9. Marie Mérier, Martin Broyer, Juliette Delperroux, Théo Gomard et Thomas Bizot sont à nos côtés. Bonjour Pierre Veil.
Bonjour Patricia Martin. Je l'ai retrouvé. Oui, ma carte d'électeur. Je l'ai cherchée hier soir. J'ai un désordre chez moi.
Oui, bah ça m'étonne pas.
Voilà, j'ai plein de dossiers, n'est-ce pas, et je retrouve plus rien.
Il y a qu'au bureau qu'il n'y a rien sur le bureau. Voilà. Alors, il faut quand même que les auditeurs sachent que vous êtes là depuis le milieu de la nuit, donc c'est que vous avez des choses à nous dire, j'imagine.
Oui, donc j'ai retrouvé ma carte d'électeur parce que demain, il faut aller voter. Et le défi de la sécurité lors du scrutin de demain, les consignes de sécurité dans les bureaux de vote, le profil du terroriste qui a assassiné un policier jeudi soir sur les Champs-Élysées. On va en parler à 8h20 avec notre invité, le criminologue Alain Bauer.
Mais j'en reviens à votre carte d'électeur. Vous savez, je crois que si vous arrivez juste avec votre carte d'identité, mais peut-être l'avez-vous perdue également, je pense que vous pouvez quand même voter.
Oui, mais moi j'aime bien l'ordre. Oui, vous voyez, la carte d'identité et la carte d'électeur. Voilà.
C'est votre... Enfin bon, bref. Voilà, à 6h25, je ne sais pas si je dis... Non, j'allais dire une vacherie. 6h25, instantané.
Oui, avec la Syrie et un journaliste syrien en pleurs qui porte secours à des enfants blessés lors d'une évacuation de civils. C'est une photo qui a fait le tour du monde et on en parlera, Patricia Martin, avec Mario Goldman, qui est responsable photo de l'agence France Presse pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord. Et puis dans quelques instants...
Sans oublier, c'est votre chouchou.
Oui, l'actualité francophone, l'actualité au Canada, en Belgique, n'est-ce pas, en Suisse, en Afrique et en France. Voilà.
À 6h42, les titres de la presse avec Frédéric Pommier, ensuite le vrai faux de l'Europe avec Delphine Simon, livre en poche de Jacqueline Pétrose et Dicosomatique d'Aurore Vincenti. Voilà quelques-uns de nos rendez-vous, en tout cas des premiers. Vous vous souvenez comme un boomerang?
C'est une chanson de Dany.
Exactement. Bah maintenant qu'ils s'y sont mis à trois, il y a Gonzalez et Feist, figurez-vous.
Oh, super, allons-y.
Il est 6h08 sur France Inter.
Just like a boomerang, bouncing back to where it starts. We belong like yin and yang, even if you pull us apart. I feel a boom and a bang, someday soon you'll feel it too. Watch out for the boomerang, always bouncing back to you. I got hooked but you will hang, time will pass and then we'll be too.
Watch out for the boomerang. Own self-portrait. Now I'm in the boomerang brotherhood. Now shoes on the other foot. Now to be a member is to be a pretender, just to pretend that you don't remember. But that's how it goes. The first offender gets a boomerang, man. Return to sender.
I feel a boom and a bang, beating in my broken heart. Love just like a boomerang, bouncing back to where it starts. We belong like yin and yang.
you will have time passing and you'll be too.
6h10 sur France Inter, l'actualité francophone. Pierre Veille.
L'actualité francophone au Canada, la flambée des prix de l'immobilier dans la plus grande ville du pays, Toronto. En France, juste avant le premier tour de l'élection présidentielle, attentat sur les Champs-Élysées jeudi soir, un policier tué, et un attentat déjoué à Marseille mardi. La Belgique, trois quarts des Turcs belges ont voté pour la réforme autoritaire du président Erdogan. Polémique, certains y voient un échec de l'intégration. L'Afrique en République démocratique du Congo, obtenir un passeport coûte cher. En Suisse, mobilisation d'un syndicat pour défendre les travailleurs âgés touchés par le chômage. L'actualité au Canada et le prix de l'immobilier, Dominique Brassard. Après Vancouver, c'est au tour de la plus importante ville du pays, Toronto, de prendre des mesures pour freiner la hausse spectaculaire des prix.
Oui, une taxe de 15% sera imposée aux étrangers qui achètent une propriété à Toronto. Les appartements, les maisons dans cette ville coûtent en moyenne 1,5 million de dollars. Voici là-dessus la première ministre de la province de l'Ontario, Kathleen Wynne.
Nous visons à stabiliser le marché et à rendre plus abordable l'achat ou la location d'un logement. L'Ontario restera accueillant pour les personnes qui veulent travailler ici et élever leur famille ici.
Pour ce qui est du marché locatif, tous les logements seront désormais assujettis à une hausse limitée des loyers. Une taxe sera également imposée aux propriétaires d'appartements vacants.
Dominique Brassard, comment expliquer cette flambée des prix à Toronto?
Selon le directeur principal de l'agence immobilière Royal LePage, Dominique Saint-Pierre, il considère que c'est tout simplement une question d'offre et de demande.
Le problème à Toronto, présentement, c'est un problème d'offre, tout simplement. Le développement économique de la province est tellement fort qu'ils ne soutiennent pas la demande avec l'immigration qu'ils ont présentement.
Les prix des maisons et des condos dans la grande région de Toronto ont bondi de plus de 30 % en un an seulement.
En Belgique, Nathalie De Vic, certains veulent relancer le débat sur la double nationalité au lendemain du référendum en Turquie.
Référendum qui pourrait en effet avoir des conséquences législatives chez nous. C'est du moins le souhait de deux partis flamands, chrétiens-démocrates CD&V et nationalistes NVA, demandeurs depuis longtemps d'une suppression de la double nationalité. Car si en Turquie, seuls 51% de la population se sont exprimés en faveur du régime présidentiel, les Turcs de Belgique ont, eux, voté pour bien plus massivement, à 75%. Rien d'étonnant, l'électorat belgo-turc est majoritairement issu des régions rurales très conservatrices. Même la jeune génération rêve d'un pouvoir fort au détriment d'un état de droit. Le député Hendrik Bogart y voit l'échec de l'intégration de la communauté turque.
C'est un débat qui était fermé au niveau de la Belgique parce qu'il n'y avait pas une solution juridique. Mais avec le résultat d'hier du référendum, on est dans une nouvelle situation. On ne peut pas se permettre de dire, voilà, il y a un régime autoritaire et tout se passe bien et tout continue.
Mais la plupart des juristes doutent de la faisabilité d'une remise en question de la double nationalité. Envisager sa suppression, voire sa restriction pour certains pays serait extrêmement compliqué, estime le constitutionnaliste Christian Behrendt, tant en termes d'obligations internationales que de droits belges.
Ces questions de bipatridie sont très vite complexes et la Belgique n'est absolument pas la seule partie intéressée parce que par définition, vous avez deux États souverains qui sont concernés et la Belgique, par ailleurs, doit respecter l'égalité de ses citoyens et donc doit prendre une mesure qui vaut indistinctement pour tous les Belges, quelle que soit l'autre nationalité concernée.
Sans compter que cela poserait inversement des problèmes importants aux expatriés belges qui bénéficient à l'étranger de cette double nationalité. Le débat risque en tout cas de diviser le gouvernement. Le ministre des Affaires étrangères se dit sceptique, craignant une réaction épidermique. Le CD&V pense au contraire que cela devrait inciter d'autres pays à revoir leur position. France, Pays-Bas ou encore Allemagne, où la communauté turque a là aussi voté majoritairement pour des pouvoirs présidentiels renforcés, faisant craindre partout une dérive autoritaire.
L'Afrique, Charlotte Hydrac, l'actualité en République démocratique du Congo et une polémique sur les passeports.
Oui, un nouveau passeport biométrique a été mis en place en novembre 2015 dans le pays et c'est l'un des plus chers du monde. 185 $ pièce, un petit peu plus de 170 € au minimum.
Franchement, il n'y a personne qui paye que le 185 $. Moi, j'ai cherché mon passeport express. J'ai utilisé la voie la plus rapide et ça m'a coûté à peu près de 180 $.
Il faut reconnaître que
les prix n'a jamais été fixe, parce que lorsque j'ai pu faire la même procédure ou démarche pour un frère, là c'était 250.
Un prix de toute façon élevé pour comparer. En France, un passeport coûte 86 euros, 83 au Canada. Et surtout, selon des documents consultés par l'agence de presse Reuters, 65 $ seulement atterriraient dans les caisses de l'État congolais. Pour le reste, cela irait vers une société basée aux Émirats Arabes Unis qui serait détenue par une proche du président Kabila et vers l'entreprise belge qui produit ces documents de voyage.
Charlotte Hydrac, qu'est-ce qui justifie ce prix élevé?
Alors justement, c'est la question que se posent beaucoup de Congolais. Selon Reuters, une société concurrente belge également avait fait au gouvernement de Kinshasa une offre de passeport biométrique à 28 $ pièce en 2014, donc beaucoup, beaucoup moins cher. Le chef du rassemblement de l'opposition, Félix Tshisekedi, a demandé à la justice de se saisir de cette affaire. De son côté, le vice-ministre des Affaires étrangères congolais a simplement confirmé que l'État ne touchait que 65 $ sur chaque passeport, en rejetant tout soupçon de détournement de fonds.
La France et une dernière semaine de campagne avant le premier tour de l'élection présidentielle marquée par le terrorisme. Jeudi soir, dans le quartier hautement symbolique des Champs-Élysées, un homme tire sur un quart de police, un policier est tué, ses collègues répliquent, l'assaillant est abattu. Témoignage d'un passant.
Le monsieur est arrivé en Audi A80, les anciennes Audi grises. Il a garé juste derrière le camion. Moi, j'ai entendu 6 coups de feu. Je croyais que c'était des pétards. Parce qu'on a tous regardé sur la route, il n'y avait personne. Il était caché derrière le camion et tiré sur la police en fait.
Attentat revendiqué par le groupe djihadiste de l'État islamique. Et puis mardi à Marseille, arrestation de 2 Français de 23 et 29 ans. Dans leur appartement, les enquêteurs découvrent des armes et des explosifs. Un des individus avait enregistré une vidéo d'allégeance à Daesh. Le procureur de Paris, François Molins, a dévoilé son contenu.
Dans une vidéo interceptée le 12 avril dernier, est filmée une table sur laquelle est posé un fusil mitrailleur, le drapeau noir de l'État islamique, des dizaines de munitions disposées afin d'écrire la loi du talion, la une d'un quotidien avec en couverture un candidat à l'élection présidentielle, puis apparaît un montage d'enfants victimes de bombardements, des photographies djihadistes et des versets coraniques appelant à la vengeance.
Dès lors, la sécurité intérieure pense qu'un attentat visant la campagne électorale est imminent. Les candidats sont prévenus, leur protection renforcée. La France redécouvre cette semaine que l'objectif des terroristes est de nous déstabiliser, surtout avant un vote crucial. La Suisse, Pierre Anchoffat, et chez vous, le sort des travailleurs âgés inquiète les syndicats, faute de mesures ciblées pour les plus de 50 ans.
Oui, ils sont 2 fois plus nombreux à être au chômage que les 25-49 ans, mais surtout, s'ils ont effectivement le malheur de perdre leur emploi, les plus de 50 ans ont de très gros risques de rester très longtemps au chômage. D'où l'appel lancé cette semaine par le syndicat indépendant Travail Suisse, qui veut des mesures concrètes et préventives.
Par exemple, que propose-t-il, Pierre?
Eh bien, notamment que les employeurs et ou l'État soutiennent financièrement les travailleurs qui souhaitent se mettre à jour, voire incitent les autres à le faire, comme l'explique le vice-président de Travail Suisse, le socialiste Jacques-André Maire.
On aimerait pouvoir détecter les éventuels problèmes avant que la situation s'aggrave, et ce que nous préconisons, c'est d'avoir recours à un bilan de compétences, pouvoir, à partir de 45 ans environ, faire un bilan de compétences, voir quelles sont les compétences bien réelles, et ça peut aussi valoriser la personne, et puis ensuite surtout voir quels sont les manques éventuels pour pouvoir les combler par de la formation continue.
Or, ces bilans de compétences coûtent relativement cher et à ce jour, rien n'oblige l'entreprise ni même les collectivités publiques à financer de telles démarches.
Et Pierre Anchoffat, comment le syndicat compte-t-il convaincre d'en faire plus?
Eh bien, en martelant ses propositions, bien sûr, notamment lors de la conférence nationale sur l'emploi des seniors qui aura lieu la semaine prochaine. Mais le syndicat craint que le très libéral ministre de l'économie ne soit pas d'une grande aide pour faire passer des mesures plus contraignantes que la seule bonne volonté des employeurs.
C'était l'actualité francophone. À la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis.
Merci à vous, Pierre Veil. 6h19 sur France Inter, dans quelques minutes instantanées, autour d'une photo que vous avez probablement vue cette semaine. Un homme à genoux à côté d'un corps calciné. L'homme est un photographe syrien. Il a jeté son appareil à terre. Nous en parlerons avec le responsable photo de l'agence France Presse pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Il est l'heure de retrouver Jean-François Zigel sur France Inter. Bonjour Jean-François.
Bonjour Patricia.
Un petit aperçu de ce qu'on va entendre tout à l'heure dans votre émission La Preuve par Z. À midi, on continue avec les valses. La semaine dernière, elles étaient russes. Aujourd'hui, elles seront
françaises. Française, s'il vous plaît, de la bonne valse française. Enfin, encore que, il y a eu beaucoup de compositeurs d'origines étrangères qui ont fait des valses très parisiennes, comme par exemple Monsieur Waldteufel, Émile Waldteufel. Est-ce que vous le connaissez, celui-là? Bien, figurez-vous qu'il avait le titre de pianiste de la chambre de l'impératrice. Moi, j'adorerais avoir ce titre.
Ah bah, je vous verrais très bien.
Je serais nommé, alors bon, évidemment, il n'y a plus d'impératrice, mais je serais pianiste de la chambre de la présidente.
Enfin, pauvre impératrice, elle vous attendrait longtemps, parce que vous savez faire attendre, hein, vous.
Ah oui, mais vous savez, ça n'en est que meilleur.
Oui, bien sûr.
Mais oui, ça accroît le désir.
Revenons-en à la musique.
Alors, Waldteufel, il y a un thème que je suis sûr vous connaissez parce qu'il a servi de générique au ciné-club, à la télévision. Vous en souvenez? Alors là, c'est de circonstance puisque ça s'intitule Amour et printemps.
Est-ce qu'elle a quelque chose de spécifique, la valse française, par rapport à la valse russe?
Oui, alors elle est plus régulière du point de vue des temps. Vous savez, la plus irrégulière, c'est la valse viennoise, avec ce roubateau qui fait qu'on anticipe le second temps. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Tandis qu'à Paris, on va plus tout droit. 1, 2, 3, 1, 2, 3, tagadagadagadagadagadagadagada. Voilà, c'est plus net, ça tournoie plus vite, c'est un peu plus populaire aussi. Moi, j'aime bien, c'est plus énergique, c'est peut-être un tout petit peu moins élégant des fois.
Et ça a à voir avec le tempérament?
Ça a à voir avec le tempérament, vous voulez dire de celui qui valse
de... Non, de celui qui compose.
Ah bah écoutez, ça je ne sais pas, là vous me posez des questions, je ne peux pas vous répondre. Mais enfin écoutez, il y aura une valse romantique de Debussy tout à l'heure, il y aura Waldteufel, il y aura la célèbre valse de la symphonie fantastique de Berlioz.
De toute façon, on se retrouve à midi.
On se retrouve à midi exclusivement à trois temps. J'ai oublié de vous parler de Chopin, de Meyerbeer.
Moi j'ai oublié de vous dire que j'avais super mal au pied depuis la semaine dernière. Vous m'avez écrasé le pied droit.
Je ne vous ai absolument pas écrasé le pied droit. Vous avez mis votre pied droit malencontreusement, maladroitement sous mon pied gauche. Voilà. Bon, enfin bref, est-ce que vous savez danser la valse musette?
Ben, ça ne doit pas être très compliqué, ça, la valse musette. Si, c'est un peu le même rythme, mais sauf que ça va à l'envers. Ça va plus vite, non?
Et vous savez qu'à une époque, on ne payait pas pour entrer dans les salles de bal musette, mais à chaque fois qu'on dansait une valse, il y avait quelqu'un qui passait, et on devait lui donner un ticket rouge qu'on avait acheté auparavant. Et est-ce que vous savez pourquoi on appelle ça la valse musette?
Non.
Eh bien, la musette, c'était le nom de la petite cornemuse du centre de la France. Et comme ce sont les Auvergnats qui se sont installés à Paris et qui ont créé, entre autres, des débits de boissons, mais aussi des salles de bal, au départ, on dansait la valse au son de la musette. Et puis petit à petit, on a remplacé la musette par l'accordéon.
Moi, je vous propose un truc. On va demander ça à la permission à Laurence Bloch, notre directrice. On fait une spéciale Zigel un matin. On commence à 7h25 et on s'arrête à midi.
Ah, je suis sûr que Laurence Bloch sera d'accord. À tout à l'heure.
De la valse romantique de Claude Debussy, Jean-Yves Thibaudet était au piano. Instantané sur France Inter, la photo de la semaine, Pierre Veil, en tout cas celle que nous avons choisie, est insoutenable.
Oui Patricia, une photo qui a fait le tour du monde cette semaine, elle nous vient de Syrie. Le 15 avril, un homme précipite sa voiture piégée contre un convoi transportant des Syriens fuyant deux villes chiites pro-Assad. Bilan, 126 morts, dont 68 enfants. Et sur une photo, on voit un homme à genoux, un appareil photo à la main, pleurant à côté du corps calciné d'un enfant. Cet homme qui pleure, c'est Abd al-Kader Abak. C'est un photojournaliste syrien. Il suivait cette évacuation de civils et après l'explosion, il a porté secours à plusieurs enfants et puis il s'est effondré en pleurs.
Oui, alors pour en parler, nous avons en ligne Mario Goldman, responsable photo de l'agence France Presse pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord. Vous êtes en ce moment à Chypre. Bonjour.
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 Abd al-Kader Abak l'a dit, donc c'est l'impuissance et la douleur qui l'ont fait pleurer et se mettre à genoux. Est-ce que ça vous est arrivé à vous, à titre personnel?
Non, moi ça m'est pas arrivé à titre personnel. Ces photographies, il a trop vu. Et là, c'était insoutenable pour lui, c'était trop. Et c'était pas le moment de faire des photos.
Et l'urgence, c'était de mettre les gens à l'abri.
Je pense que à ce moment-là, on réagit de manière très différente à chacun et que lui, il a parlé, il a réagi avec ses tripes. Il a vu que c'était pas le moment de faire du journalisme. Il a vu que c'était le moment d'aider les gens, quoi.
Et ce genre de situation, des photographes qui travaillent pour vous, vous l'ont déjà raconté. Ils ont vécu cela. Il se passe un événement très important, mais non, je laisse tomber. J'aide, je porte secours, j'essaie de sauver.
Il y a des cas très différents, parce que les situations sont différentes. Au moment où ça tire de tous les côtés, c'est extrêmement difficile de faire quoi que ce soit. Donc la seule chose qu'on peut faire à ce moment-là, c'est se mettre à l'abri. Mais même malgré ça, il y a des gens qui sont essayés d'aider les autres. Sinon, c'est pas seulement une question de guerre. Il y a les réfugiés qui viennent d'Afrique. J'ai en tête un photographe grec, à un moment donné, il a baissé ses boîtiers, il a fait des photos magnifiques, mais qui témoignaient de la douleur, de la complexité de cette crise humanitaire. Mais à un moment donné, il s'est mis lui-même à prendre des enfants pour les sortir de l'eau.
Ce qui est terrible, c'est que Abdelkader Abak a dit, je l'ai lu, que cet enfant qu'il a secouru, après, il ne sait pas ce qu'il est devenu, il ne sait même pas s'il a survécu.
Bien sûr, il ne peut pas le savoir. Il les saura peut-être jamais, ou peut-être des années plus tard.
Mario Goldman, on reçoit régulièrement des photos absolument épouvantables de Syrie et des enfants gazés. On se souvient aussi de cet enfant en cours d'évacuation installé sur un fauteuil avec un regard complètement perdu. Là, c'est les images de ce photographe en train de pleurer près du corps calciné d'un gamin. Vous recevez beaucoup de photos que vous ne montrerez à personne?
Écoutez, on reçoit des photos qu'on pouvait pas les passer. Donc, parce que c'est répulsif, c'est la guerre. J'ai dit la guerre dans toute son splendeur, si vous permettez, c'est l'horreur. Donc, il y a des photos qui, à part l'horreur, ils transmettent rien d'autre. Donc, nous, on essaye de montrer l'horreur, parce que ça fait partie de la guerre. Il faut montrer la guerre, il faut montrer les résultats de la guerre, souvent, c'est les morts. Et donc, nous, on les montre, mais d'une façon qui soit soutenable, en tout cas.
Ça veut dire qu'à un moment donné, à un certain point, la guerre n'est pas montrable.
Je pense que notre société, actuellement, il y a des choses qui n'est pas prête à regarder des faces.
Et puis, ce qui est aussi terrible dans cette guerre, c'est que affrontement entre militaires, on peut comprendre. Mais là, ce sont des civils régulièrement qui se retrouvent pris pour cible, des femmes, des enfants, des personnes âgées. Là, c'est une forme de guerre atroce.
Moi, je viens de l'Amérique latine et j'ai une expérience quand même de ce qui peut être une guerre civile, un conflit civil important. Et je pense que c'est les pires des cas de figure. Un peuple qui se déchire entre soi-même, il n'y a pas pire. Il n'y a pas... C'est vraiment atroce. Là, ça peut aller très loin.
Mais ce que vous dites à propos de ces photos qu'on ne peut pas montrer, ça pose presque une question philosophique qui est celle, c'est l'énigme du mal absolu.
Écoutez, en même temps, il y a certaines choses qu'il faut montrer. On n'aurait jamais montré les photos de l'Holocauste. On ne saurait jamais ce qui était arrivé. On n'aurait pas pu prendre la magnitude de l'événement. Donc, il y a des choses qu'il faut montrer parce que les gens, il faut qu'ils voient ce qu'il en est. Il y a des choses que si on ne les voit pas, on l'imagine pas, on l'imagine mal. Il n'y a pas pire. Imaginer mal les choses, ça veut dire mal comprendre la réalité. Il y a une limite pour tout, parce que là, sinon, ça peut aller très loin. Vous montrez un cadavre d'un enfant dans une situation atroce, ça ne portait pas grand-chose. Par contre, et vous vous souvenez de la France photo qui est mort sur une plage, et que sa photo, elle a fait les tours du monde plusieurs fois. C'est un réfugié syrien qu'on a retrouvé, son cadavre, par les autorités turques.
Oui, ce gamin, c'était Eylan qu'on avait retrouvé mort, noyé.
Et cette photo, elle a fait les tours du monde. Il y avait une quiétude dans cette mort, il y avait une quiétude, un dramatisme.
Mario Goldman, responsable photo de l'agence France Presse pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, en ligne avec nous depuis Chypre. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce matin. Merci.
Au revoir, merci à vous.
Il y en a qui pensent que l'éco, c'est trop...
horrible.
Barbant.
Je comprends rien, moi.
L'économie, c'est pas mon style. Pourtant, l'économie dans notre vie, c'est partout et tout le temps.
Tous les samedis à 9h15 sur France Inter,
on n'arrête pas l'éco.
Marion Lourd.
Ce samedi dans le mag, un acteur principal de la guerre des étoiles sera notre invité. Pas Luke Skywalker, non, mais Stéphane Israël, président d'Ariane Espace, spécialiste européen des lancements spatiaux. Et puis des entreprises françaises savent vous fabriquer un secrétaire virtuel ou prévoir les crises cardiaques. L'Hexagone serait-il champion de l'intelligence artificielle? Réponse dans notre reportage.
On n'arrête pas l'écho, ce samedi sur France Inter à 9h15.
Avec Amundi, votre expert en épargne salariale et retraite. Amundi, la confiance, ça se mérite.
France Inter, il est 6h30. Le journal, Camille Flechel, bonjour.
Bonjour Patricia, bonjour à tous. Nous sommes des cibles vivantes. Dans un instant, la colère de Maxime, policier parisien, après l'attentat commis sur les Champs-Élysées. Une petite centaine de policiers se sont rassemblés hier soir à Paris. Policiers, gendarmes ou militaires, ils seront 57 000 déployés pour assurer la sécurité du premier tour de la présidentielle demain, une élection sous très haute surveillance. Un congrès houleux en perspective pour l'AFD en Allemagne. Le parti d'extrême droite se réunit à Cologne pour préparer les législatives sur fond de division et de sondage en baisse. Amoureux du vinyle, tendez l'oreille. Le Discard Day, c'est aujourd'hui et c'est un très grand cru, nous promet son patron.
Entre 70 et 100 policiers se sont donc réunis hier soir, place du Trocadéro à Paris.
Un rassemblement silencieux dans le calme, organisé par des membres de l'association Mouvement des policiers en colère. Rassemblement au lendemain de l'attentat sur les Champs-Élysées. Un membre des forces de l'ordre, Xavier Jugelet, 37 ans, a été tué et deux de ses collègues blessés. Les fonctionnaires présents lors du rassemblement venaient majoritairement de Paris, parmi eux Maxime.
On en parlait entre nous et on s'est dit, à force de faire des statiques avec des véhicules marqués police et d'être en tenue, on est des cibles vivantes. Et nous, ça fait je sais pas combien de temps qu'on le dit. Nous, on est là, on encaisse depuis des années, quoi. Il n'y a jamais eu autant de collègues qui démissionnent, qui se mettent en dispo, qui se mettent une cartouche dans la tête avec leur arme de service parce qu'ils en peuvent plus, en fait. C'est un burn-out, voilà. Mais de toute façon, effectivement, le mec, il voulait buter du flic, s'est arrêté à côté d'un véhicule, il a laissé le temps à personne de se défendre et on voit ce que ça donne à l'arrivée. Mais je pense que malheureusement, s'il n'y a pas des décisions qui sont prises pour arrêter les points fixes et les statiques, il y aura d'autres incidents dans le genre. Ils n'ont pas augmenté nos droits, ils n'ont pas augmenté notre matériel. Donc ouais, c'est bien, on est là, on est des pimpins, quoi. Nous habiller avec la tenue, il y a marqué police sur le véhicule et puis on a encore moins le droit de faire que ce qu'on pouvait faire il y a 5-6 ans en matière pénale et judiciaire. Alors ils disent oui, on leur a donné les moyens de faire, c'est totalement faux. Donc non, ça ne sert à rien en fait. On est là, on est des cibles, voilà, c'est tout. En fait, on a même pas 2000 balles par mois pour mourir. Mais oui, bien sûr que ça me fait chier parce que ça aurait pu être moi en fait. Donc ouais, oui, je suis énervé. Ouais. Ça changera pas grand-chose au problème hein, d'être énervé. On est tous énervés et puis ça va pas le faire revenir. Hein.
Des propos recueillis par Philippe Rendet pour France Inter. Le groupe État islamique a revendiqué cet attentat. Un message défendant Daesh a été retrouvé près du corps de son auteur, Karim Cherfi, 39 ans. Il a passé 14 ans en prison, condamné notamment pour 2 tentatives d'homicide sur des policiers. En 2001, il était visé par une enquête du parquet antiterroriste après des menaces de mort envers des policiers et l'achat de couteaux. Mais l'enquête n'avait mis en évidence ni l'existence d'un projet précis d'attaque ni de signes de radicalisation, selon le procureur de Paris, François Molins.
Et hier, les syndicats de policiers ont été reçus par le ministre de l'Intérieur.
Pour faire le point sur leur situation et évoquer aussi les jours à venir avec une élection présidentielle sous très haute surveillance, 50 000 policiers et gendarmes et 7 000 militaires seront déployés demain pour sécuriser le premier tour, Emmanuel Leclerc.
Plus de 12 mois de réflexion, de décisions sécuritaires pour arriver à des schémas de protection et d'intervention, préfecture par préfecture, contexte local et national, quel type de protection des bureaux de vote, quelle capacité d'intervention. Les réunions se sont enchaînées ces derniers mois, encore plus ces derniers jours, les exercices, les dotations en armes, et puis surtout la surveillance des activistes, le terrorisme islamiste, être capable de suivre en temps réel certains suspects, c'est ce défi basé sur ce qui s'est passé depuis janvier 2015 à Paris qui a guidé la stratégie des responsables de la place Beauvau, le ministère de l'Intérieur et à l'Élysée, tenir compte des erreurs, multiplier les options sécuritaires pour les déclencher à tout moment et n'importe où sur le territoire en fonction des besoins, les consignes officielles et les ordres confidentiels en cas de nouvelles attaques. On aura donc à nouveau un déploiement massif d'agents de la sécurité publique, policiers, gendarmes, avec leurs nouvelles armes de guerre, les militaires de Sentinelle. De l'autre, ceux qu'on ne voit pas, en civil ou pré-positionnés, les unités d'élite. Elles ont toutes été mobilisées, là encore, au cas où.
Et aujourd'hui, vous n'entendrez ni candidat, ni sondage, ni analyse. La campagne est terminée. Et nous sommes dans la période dite de réserve jusqu'au résultat du premier tour. Demain soir, 20h et pas avant. Décalage horaire oblige. Les premiers électeurs votent aujourd'hui. Les Français installés dans des pays du continent américain et les habitants de Polynésie, de Saint-Pierre et Miquelon, de Martinique, de Guadeloupe, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et de Guyane. La Guyane où le mouvement social s'achève après plus d'un mois de blocage avec la signature d'un accord de fin de conflit par les élus locaux, l'État et le collectif pour la Guyane décollée. Il entérine le plan d'urgence immédiat de plus d'un milliard d'euros. Dans cet accord, le gouvernement acte aussi un plan d'aide additionnel de 2 milliards dans le futur.
France Inter, 6h35, un congrès mouvementé en vue pour l'AFD en Allemagne.
Le parti d'extrême droite réunit ses délégués ce week-end à Cologne à 5 mois des élections législatives. Et ce week-end, elle s'annonce agitée. 50 000 contre-manifestants sont attendus. Mais aussi Cyril Sauvageau, parce que les populistes traversent une mauvaise passe avec des sondages en forte baisse et des dissensions internes.
Il y a encore un an, rien ne semblait pouvoir stopper la marche en avant de l'AFD. Galvanisé par la crise migratoire, le parti populiste et anti-islam enchaînait les bons scores dans les scrutins régionaux et faisait douter la CDU d'Angela Merkel. Mais la conjoncture a changé, les réfugiés ne font plus autant la une, et après Trump et le Brexit, les électeurs allemands semblent plutôt en demande de stabilité. L'irruption dans la campagne du social-démocrate Martin Schulz, qui drague l'électorat ouvrier avec son franc-parler, est une autre mauvaise nouvelle. Mais si l'AFD est à la peine, c'est aussi par sa faute. À force de se diviser en interne, entre d'un côté les tenants d'une ligne plutôt modérée et de l'autre la frange dure qui ne rechigne pas à flirter avec la nostalgie du Troisième Reich. Ce week-end à Cologne, la crise qui couve risque d'éclater au grand jour. La dirigeante du parti, Frau Köppetri, est en difficulté. Après avoir annoncé cette semaine qu'elle ne briguerait pas la tête de liste aux législatives, elle va jouer son va-tout dans ce congrès où elle tentera d'imposer sa feuille de route. Objectif, préparer l'AFD à devenir un parti de gouvernement d'ici 2021. Berlin, Cyril Sauvageau, France Inter.
Le vinyle est à l'honneur aujourd'hui.
Pour la 7e édition du Disquaire Day, 255 disquaires indépendants y participent en France. Au programme des concerts, rendez-vous ce soir à 20h à la Maison de la Radio. Ce soir, et bien sûr, des centaines de rééditions, des raretés. Le Cru 2017 s'annonce exceptionnel, promet David Godvé, patron du Disquaire Day.
Cette année, on n'a jamais eu autant de disquaires qui participent. On n'était pas parti pour faire un retour du vinyle. Le seul moyen de faire des disques collector en tirage limité, c'était le vinyle. Et ça crée un engouement incroyable. C'est-à-dire que les chiffres de vente sont exceptionnels. Tout le monde s'est mis à refaire du vinyle. Les fabricants se sont mis à refaire des platines. Le Disquaire Day, c'est quelque chose où l'ensemble de la filière musicale s'implique. Alors, on peut discuter du prix du disque, savoir si c'est un peu trop cher, voilà. Mais il faut pas brader cet objet qui est un bien culturel. Il y a des disques exceptionnels qui sortent pour le Disquaire Day, comme chaque année. Mais je trouve que c'est vraiment une très belle moisson cette année qui va sortir.
David Godvé avec Mathieu Culeron sur France Inter. La 34e journée de Ligue 1 de football et un match nul 0 partout hier soir entre Nancy et Marseille. 6h37 sur France Inter. Le 6-9 continue avec vous, Patricia Martin.
Pendant que Camille Revel, c'est-à-dire vous allez vous coucher parce que c'est la fin de la nuit pour vous. À demain.
La météo avec Massif. Vous avez le pouvoir de réduire le coût de votre prêt immobilier en changeant d'assurance emprunteur. Rendez-vous sur massif.fr.
À météo France, Jean-Michel Golinski. Bonjour Jean-Michel.
Bonjour Patricia.
Il va y avoir du soleil aujourd'hui, mais pas partout. Est-ce qu'il n'y en aura pas ? On commence par les mauvaises nouvelles.
Écoutez, en partant de l'ouest et du sud, vers les frontières belges et allemandes, donc c'est dans ces régions proches de la Belgique et de l'Allemagne que les nuages seront beaucoup plus nombreux. Mais donc en descendant vers le sud, c'est-à-dire au sud de la Loire, de Rhône-Alpes à la Méditerranée et près de l'océan, là le bleu sera dominant. Le ciel sera un peu plus variable aujourd'hui, mais les éclaircies vont faire jeu égal avec les nuages sur la basse Normandie, le bassin parisien et sur la Bourgogne. Les températures de l'après-midi ne dépasseront pas 14 à 15 degrés sous les nuages du nord et du nord-est. Il est prévu 17 à Brest et à Paris, 19 sur la Touraine, la Corse, l'intérieur de la Bretagne et la Bourgogne, 20 à 22 de Rhône-Alpes à la Méditerranée et 22 à 24 degrés dans le quart sud-ouest. À signaler tout de même un vent d'ouest assez fort aujourd'hui vers 70 km à l'heure du littoral varois au Cap Corse.
CO2 mon amour,
Denis Chessou.
L'aigle et le loup. Voici une jolie fable que La Fontaine n'a jamais écrite. C'est donc dans le Champsaur, dans le parc national des Écrins, dans les Hautes-Alpes, que nous l'écrirons avec des sons. Avec deux formidables raconteurs du vivant, Jean-Michel Bertrand, cinéaste, Christian Couloumi de l'association Envergure Alpine, et leurs animaux fétiches dans votre magazine de nature et d'environnement.
C'est au de mon amour, tous les samedis sur France Inter, à partir de 14h.
Il est 6h39 dans un avenir immédiat. Les titres de la presse, c'est-à-dire dans 3 minutes avec Frédéric Pommier, puis le vrai faux de l'Europe de Delphine Simon, livre en poche de Jacqueline Pétrose et dico-somatique d'Aurore Vincenti. Naturally the dying man wonders to himself. His commentary been more lucid than anybody else. And had he successfully beaten back the rising tide of idiots, dilettantes and fools on his watch while he was alive. Lord, just a little more. Dying man, once I'm in the box, just think of all the overrated hacks running amok, and all of the pretentious, ignorant voices that will go unchecked, the homophobes, hipsters, and 1%, the false feminists he'd managed to detect. Critique them once he's left. Oh, in no time at all, this will be the distant past. What he'd give for one more day. Takes his final breath, but first checks his newsfeed to see what he's about to miss. It occurs to him a Father John Misty, c'est un pseudo, hein. Il sera en concert à Paris au mois de novembre prochain. Mais c'est encore loin, alors que lui, il est là déjà, Frédéric Pommier, pour les titres de la presse. Bonjour.
Bonjour Patricia, bonjour à tous. La France retient son souffle. C'est le titre à la une de la République du Centre ce matin. Demain, les électeurs français sont appelés aux urnes au terme d'une campagne pour le moins chaotique. Et selon le journal, jamais l'issue d'un scrutin présidentiel n'aura semblé si incertain. Un supplément de 16 pages dans Aujourd'hui le Parisien, une douzaine de lecteurs explique ce qu'ils attendent du futur président de la République. C'est maintenant l'heure du choix, confirme le populaire du Centre, tandis que Ouest-France se contente d'un mot, un verbe conjugué à l'impératif « votons », tout simplement. Mais en l'occurrence, le vote va se dérouler dans un contexte assez singulier, tendu, très tendu, 3 jours après un attentat sur les Champs-Élysées. Portrait de l'assaillant dans tous les journaux ce matin, un Français de 39 ans qui faisait l'objet depuis le mois dernier d'une enquête antiterroriste. Le Figaro raconte l'itinéraire semé de haine de Karim Cherfi. Libération détaille son obsession anti-flic, mais précise que ses liens avec le groupe État islamique qui a revendiqué l'attentat restent pour l'heure assez ténus partout. Vous lirez également
également des portraits de Xavier Jugelet, le jeune policier abattu jeudi soir. Un homme dont tous ses proches disent qu'il était d'une infinie gentillesse. Contexte singulier et une protection maximale pour la journée de demain. Le Télégramme évoque un scrutin sous tension. La Dépêche du Midi parle d'une présidentielle sous haute surveillance. Je n'en dirai pas davantage, nous sommes ce samedi en journée de trêve électorale. Du coup, si vous souhaitez vous changer les idées, d'autres sujets sont à lire également dans la presse. Vous avez envie de grand air, Patricia. Ouvrez grand vos oreilles et rendez-vous à la page 15 d'Aujourd'hui le Parisien. Vous habitez la capitale et entendez des cris. Rassurez-vous, ce ne sont pas des hallucinations venues principalement d'Europe, de l'Ouest. Les mouettes, qui sont des oiseaux migrateurs, font en ce moment escale à Paris. À chaque fois que je les entends, j'ai l'impression d'être en Bretagne. Ça me donne envie de crêpes et de cidre. Plaisante.
Si c'est pour prendre des kilos, c'est pas la peine.
Une jeune Parisienne. Profitons des mouettes à Paris, titre Le Quotidien, précisant que leur nombre a baissé de près d'un tiers en une décennie. Vous avez envie de musique? Souriez, c'est le printemps, lance le Berry républicain, en l'occurrence le printemps de Bourges, qui se tient jusqu'à demain soir. Vous avez envie de sourire?
Qu'est-ce qu'on mange à Bourges d'ailleurs?
Des choses très bonnes et très caloriques, évidemment. Vous avez envie de sourire? Rendez-vous à la page 24 de Libération avec une interview de l'acteur humoriste Jackie Berroyer qui publie chez Le Dilettante une anthologie de ses chroniques. Parlons peu, parlons de moi, c'est le titre du livre dans lequel il évoque notamment la musique et c'est précisément sur son rapport à la musique que l'interroge Le Quotidien. Quel est le premier disque que vous avez acheté adolescent? Réponse de Jackie Berroyer, un disque de frein pour ma mobylette. Quel disque emmèneriez-vous sur une île déserte? Réponse de Jackie Berroyer, celui de ma hernie, que l'on a remplacé par un vieux disque de frein de ma mobylette. Et avez-vous besoin de musique pour travailler? Réponse de Jackie Berroyer. J'écoute beaucoup de musique en écrivant et ça me déconcentre. Ceci explique la médiocrité de mes livres, mais j'aime par ailleurs beaucoup lire quand j'assiste à un concert. Précisément, quel est votre plus beau souvenir de concert? Réponse de Jackie Berroyer. Un concert de louanges à mon égard. Je me disais quelle lucidité et quel goût exquis ont ces gens. Comme quoi, poursuit-il, il ne faut surtout pas désespérer de tout. Enfin, c'est le football qui fait la une de L'Équipe. Retour sur la rencontre Nancy-Marseille en Ligue 1, match nul 0-0. Un non-match de l'avis du Quotidien sportif qui estime que les Marseillais ont été beaucoup trop timorés et totalement inefficaces. Elle, en revanche, elle n'est pas du tout timorée et elle est toujours très efficace. C'est mademoiselle Patricia Martin qui vous accompagne jusqu'à 9h.
Merci, mademoiselle. Vous revenez à 8h30 pour une revue de presse. Frédéric Pommier, une revue de presse sans politique.
À tout à l'heure.
Il est 6h46.
France Inter, le 6-9 du week-end.
Le vrai faux de l'Europe avec vous Delphine Simon, bonjour.
Bonjour Patricia, bonjour à tous.
On parle de l'euro ce matin.
Oui, avec le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau. Il monte au créneau pour défendre la monnaie européenne 25 ans après le traité de Maastricht.
On l'a un peu oublié, mais avant ce traité dont nous marquons les 25 ans, il y avait presque 5% de hausse des prix par an. Aujourd'hui, il y en a moins de 2%. Et quand il y a une inflation trop haute, que nous avons vécu il y a plus de 25 ans, cela réduit d'autant le patrimoine des épargnants et cela réduit le pouvoir d'achat des salariés et des retraités, en tout cas des plus modestes d'entre eux, parce qu'ils n'ont pas moyen de bien défendre l'indexation de leurs revenus.
Contrairement à une idée souvent entendue, les prix ont moins augmenté avec l'euro. Alors c'est vrai ou c'est faux, ce qu'affirme le gouverneur de la Banque de France, Delphine?
Bien, c'est plutôt vrai. Si on regarde l'évolution de l'indice des prix à la consommation, cet indice est calculé chaque mois sur la base de plusieurs milliers de produits de consommation. Il augmente chaque année, mais actuellement, cette évolution est assez faible. Les prix augmentent d'1,6% en moyenne depuis le passage effectif à l'euro en 2002. A l'inverse, avant l'euro, l'inflation était plus élevée, comme l'affirme le gouverneur de la Banque de France. Dans les années 90, elle dépassait rarement les 3%. En fait, il faut remonter jusqu'aux années 80 pour atteindre 5% d'inflation, voire 10% dans les années 70.
Ça veut donc dire que l'euro n'a pas fait exploser les prix comme on l'entend souvent?
Non, les prix ont plus augmenté dans les 10 ans qui ont précédé l'euro que dans les 10 ans qui ont suivi l'arrivée de la monnaie européenne. On peut aller voir sur le site de l'INSEE. À cela, il faut ajouter que les salaires et les revenus, eux aussi, ont continué de grimper, malgré un coup d'arrêt très net avec la crise en 2008. Si on fait les comptes, depuis 15 ans, malgré la crise et malgré le chômage de masse, le pouvoir d'achat des Français a tout de même augmenté de 15%. Si je résume, François Villeroy de Gallo a raison de dire que l'inflation est plus modérée depuis que nous avons l'euro, même s'il force un tout petit peu le trait. Avant l'euro, il faut remonter jusqu'aux années 70 et 80 pour atteindre 5% de hausse des prix par an.
Alors d'où vient cette impression que les prix ont fortement augmenté avec l'euro? Une impression qu'on est beaucoup à ressentir. Hein.
Oui, en fait, les prix n'ont pas augmenté au même rythme pour tous les produits et c'est ça qui trouble. Certains ont beaucoup augmenté, d'autres moins et d'autres ont carrément baissé. C'est le cas de l'électroménager, des voitures ou des abonnements télécom. Mais dans le même temps, le prix des logements, les loyers, l'énergie, l'eau, les produits frais, eux, ils ont beaucoup augmenté. Des produits de grande consommation, souvent de première nécessité, qu'on achète beaucoup plus souvent.
Et l'euro est-il responsable des hausses de prix?
Parce que c'est toujours l'euro. Oui, pas toujours, justement. Par exemple, si on prend les carburants, plus de 60% du prix du litre à la pompe, il dépend de la fiscalité et des taxes. Quant au pétrole, il se négocie en dollars sur les marchés internationaux des matières premières. Rien à voir avec l'euro. Si on prend les produits frais, leur prix, il dépend pour une bonne part des cours des matières premières, hein, toujours sur ces marchés internationaux, mais aussi des aléas climatiques. Là aussi, il est difficile de rendre l'euro responsable.
Et la fameuse baguette de pain, son prix n'a-t-il pas augmenté?
Lors du passage à l'euro en 2002, il y a eu effectivement un effet d'aubaine. Les prix ont décollé ponctuellement sur des produits de très grande consommation, la baguette ou le café. La Commission européenne chiffre ce phénomène entre 0,2 ou 0,3% durant un an, l'année qui a suivi l'arrivée de la monnaie européenne. Alors 0,3%, ça représente 30 centimes sur 100 euros, ce qui n'est pas vraiment une explosion des prix. Certaines augmentations très visibles ont frappé les esprits, c'est vrai. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que le prix de la baguette augmentait déjà bien avant la mise en place de l'euro.
Merci Delphine Simon. Il est 7h10 sur France Inter. Mais bonjour à vous Jacqueline Pétrose.
Bonjour Patricia.
Cassez la voix. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous n'avez pas mis vos chaussettes? Nous allons à la découverte d'une sacrée personnalité d'un roman qui a eu un immense succès au Québec. C'est La femme qui fuit d'Anaïs Barbeau-Lavalette au livre de poche.
Ça se lit comme un roman, mais c'est une histoire vraie. Anaïs Barbeau-Lavalette nous parle de sa grand-mère, une femme qui, au début de cette histoire, n'est pas des plus sympathiques. Elle s'appelait Suzanne Méloche et avait abandonné ses enfants, dont la mère de l'auteur. Son credo, suivre sa voie. Quand Anaïs la rencontre, quelque temps avant sa mort, la vieille dame, sans être indigne, ne fait pas de réels efforts pour apprivoiser sa petite fille. C'est au moment où la famille vide l'appartement de Suzanne qu'Anaïs est intriguée. Dans la chambre, elle découvre des livres bouddhistes, des poèmes, des journaux, des lettres et surtout une photo de 1961, un autobus en feu dans l'Alabama et aux côtés de jeunes noirs rescapés des flammes, une jeune femme qui lui ressemble, c'est Suzanne. En court chapitre, Anaïs nous raconte alors la vie hors du commun de Suzanne Barbeau. Ce n'est pas une inconnue, elle fut l'une des premières à utiliser l'écriture automatique. Elle épousera le peintre Marcel Barbeau et aura donc ses deux enfants. C'est d'abord la vie de bohème, mais Suzanne s'ennuie. Elle veut être libre de penser, d'agir, de vivre intensément. Alors elle quitte Montréal pour Londres et New York, abandonnant sa famille. Par touche intime, la petite fille dresse le portrait d'une femme exceptionnelle et avant-gardiste. Anaïs s'interroge en même temps sur la création, la famille, la maternité. Ce livre a donc eu un succès retentissant au Québec. Il devrait aussi marquer les lecteurs et lectrices de France.
Et puis on célèbre, Jacqueline, ce mois-ci un autre poète, c'est Jacques Prévert qui nous a quittés il y a 40 ans.
Et Folio réédite une fois encore ce qui est toujours son recueil le plus célèbre, Paroles. Publié en 1946, il se vendra dans la semaine à plus de 5000 exemplaires, ce qui est beaucoup pour l'époque. Et il reste aujourd'hui un phare dans la production de Prévert, un indispensable où l'on retrouve le Cancre, le portrait d'un oiseau ou Rappelle-toi Barbara. Parole est présentée en coffret avec un joli livret, avec des collages du poète, indispensable pour continuer à faire connaître cet artiste caméléon de génie.
Et puis vous mettez en avant toute une collection, celle du Le goût de, c'est au Mercure de France.
Alors ces petits livres sont des puits de science sur des sujets aussi variés que les grandes villes, les hommes, les sentiments ou les passions. Cette fois, c'est le goût du blanc, tout simplement. Et c'est passionnant. Explication du symbole qu'il représente, le bestiaire dans la littérature fantastique avec Moby Dick, Pégase et la licorne, bien sûr. Enfin, le blanc dans l'histoire de la peinture. Et tout cela grâce à des écrivains, des peintres et des historiens. Cette collection, c'est vraiment un plaisir et une découverte à chaque fois.
Dicosomatique à 6h53 sur France Inter. Bonjour Vincenti.
Bonjour Patricia. Des choses avec ma langue.
Ouais.
Oui, parce que nous entretenons en France des relations sensuelles avec notre langue. Qu'il s'agisse de parler ou de rouler une pelle, c'est souvent passionné. Il y a même des puristes de la langue qui seraient prêts à la défendre bec et ongle. Et comme si ce n'était pas suffisant, on lui a créé une académie à la langue. C'est pas commun, faut avouer. Il n'y a pas d'académie du genou français ou de l'estomac français.
Moi, je sais parler toutes les langues, moi, je sais parler les langues du monde entier. J'en savais rien, mais maintenant que tu le dis, c'est enfantin, ça va changer ma vie. J'ai des baskets, ça c'est un mot en anglais. J'ai des baskets pour faire mes petits trajets. Un anorak, mot qui vient des Esquimaux. Un anorak, pour quand tu fais pas beau.
C'est toute mon enfance, Henri Dess.
Henri Dess, mais oui,
il y avait Anne Sylvestre aussi, mais Henri Dess.
Il y en a, c'était Chantal Goya, mais vous, c'est
voilà.
Henri Dess.
Ça, c'était Polyglotte, en 98. Bah oui, parce que dans la langue française, la langue, c'est à la fois un organe situé dans la bouche et un système d'expression commun à un groupe. Mais commençons par ses fonctions organiques et physiologiques à la langue. C'est l'organe principal du goût. On sait que les saveurs élémentaires, sucrées, salées, amères, acides et umami, sont détectées dans des régions bien spécifiques de la langue. Pour n'en nommer qu'une, le sucré, c'est sur le bout de la langue, comme les mots qu'on a parfois sur le bout de la langue.
Et qui ne viennent pas.
Et qui ne viennent pas, exactement. Ben, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à dépasser la frontière des lèvres. La langue entre aussi en jeu dans la mastication. Et non, il n'y a pas que les dents, la langue pousse, retourne, oriente. Alors, la prochaine fois que vous aurez quelque chose à manger dans la bouche, demandez-vous ce que vous pourriez faire si vous n'aviez que les dents. Bien moins pratique, je peux vous l'assurer.
Vous avez essayé ?
Oui, j'ai essayé. La langue, j'ai figé ma langue en bas de ma bouche. C'était assez étonnant. Hier, j'ai fait l'expérience.
C'est intéressant, les préparations des chroniques d'Henri Vincenti.
Bon, la langue est très agile. Elle est pourvue de 17 muscles qui lui permettent de se placer à divers endroits, dans et hors de la bouche. Bah oui, on tire la langue parfois. Ouais. Et de modifier sa forme. Vous savez, certaines personnes parviennent à donner une forme à leur langue, un peu comme un U. Alors moi, j'en suis parfaitement incapable.
Moi aussi, j'ai déjà essayé, mais non.
Bon, eh bien, cette plasticité de la langue fait qu'on peut la tourner 7 fois dans sa bouche, ou dans celle d'un autre.
Je vous en prie.
C'est ce qu'on comprend dans Les Beaux Gosses de Riyad Satouf, où deux copains s'entraînent à embrasser avec la langue au fond de la classe, en plein cours de physique. Enfin, l'un avec l'autre. Donc, dans cet extrait, l'un fourre son doigt dans la bouche de l'autre pour simuler un baiser.
Alors, la langue et tout, la bave, comment je fais? Ça coule pas sur les côtés? Ça fait pas des coulaisons?
Ben non, mais en fait, ça se fait naturellement. C'est aspiré.
Faut faire ventouser avec la bouche?
Ben non, mais tu sais, avec les mouvements, ça coule pas. Ça fait un courant, un peu comme avec les hélices des bateaux.
Du mouvement, mais quel mouvement?
Ben tu tournes. Attends, je te montre.
Extrait des Beaux Gosses, tu tournes. C'est ce qu'on appelle en français French kiss?
Oui, littéralement baiser français. On a une sacrée réputation à l'étranger. Bon, mais là, il s'agit d'une fonction, disons, ludique de la langue, qui a à voir avec des fonctions plus vitales, comme la succion, la tétée et le fait de lécher. Alors, une fois qu'on a mastiqué, sucé, tété, léché, il faut bien déglutir, et c'est là une autre fonction de la langue qui va avec le fait d'avaler du liquide ou du solide. Et enfin, après la déglutition, il y a la phonation, c'est-à-dire le fait de produire des sons. Ainsi, afin d'articuler, et c'est très important dans votre métier, Patricia,
c'est vrai,
on a besoin de placer correctement notre langue dans notre bouche. Vous vous souvenez du bourgeois gentilhomme de Molière qui apprend à placer sa langue, à former sa bouche pour émettre des voyelles et les faire résonner avec des consonnes? Alors théoriquement, une fois qu'on sait parler, on n'a plus besoin de se poser la question « Mais attends, où dois-je la placer, ma langue, pour articuler ce son ?» Non, ça se fait tout seul.
Mais dès qu'on commence à penser à ce qu'on fait, essayez de penser à ce que vous faites quand vous marchez. Vous n'arrivez plus à avancer.
C'est une pratique de méditation,
c'est
décomposer sa marche, de se focaliser, d'être dans la conscience de sa langue. Soyons dans la conscience de notre langue. Là, je suis à fond dans ma langue, c'est terrible. Et alors, je constate qu'en français, je la sens bouger maintenant, c'est terrible, les expressions dans lesquelles la langue est en jeu ont quasiment toutes un rapport avec le fait de parler. Dans notre imaginaire, l'organe langue et la parole sont quasiment indissociables. Dans le domaine du goût, par exemple, on parlera plus facilement du palais. On dira qu'on a un palais fin. La langue, elle concerne le verbe. Qu'il s'agisse de la langue de bois, dont on entend pas mal parler en ce moment, elle est en bois parce qu'elle est figée, ou la mauvaise langue, dite
langue de pute, non ?
Voilà, langue de vipère, langue de belle-mère, paix à son... Voilà. Et notez que tout cela est fort péjoratif. Bon. Si on a une petite tendance à la logorée, on aura la langue bien pendue, ou on n'aura pas la langue dans sa poche. En français de Belgique, on dira plutôt qu'on a ou qu'on est une grande langue. Mais vous, je commence à vous connaître. La langue que vous préférez, c'est celle que l'on glisse dans un baiser.
Toi qui as mis sur ma langue ta langue amie, et dans mon cœur un décalcomanie, marqué liberté, liberté chérie. Je donne au départ pour ce moment délicieux hasard, Adam O.M. si sola, oh tous les milliards de dollars. Le vent de Belgique envoyé mélancolique, ses flonflons à la française, de fancifer à la fraise. Si tout est moyen, si la vie est un film de rien, ce passage-là était vraiment bien. Ce passage-là était bien. Elle est repartie, un air lassé de reine à languie, sur la digue un petit point parti, dans l'audi de son mari. Oh, son mari. Je chante un baiser, je chante un baiser osé, sur mes lèvres déposées.
Baiser Alain Souchon, merci Aurore Vincenti, c'est fini, on ne discute pas avec Sébastien Legény, il a son journal à faire. Merci Aurore, à la semaine prochaine.
Mais je vous remercie également.
France Inter, il est 7h. Le journal Sébastien Legény, bonjour.
Bonjour Patricia, bonjour à tous. La fin des barrages en Guyane et une population soulagée. Après plus d'un mois de paralysie, les collectifs guyanais mobilisés ont accepté de signer un accord avec l'État. Dans l'Hexagone, on vote dans moins de 24 heures. Un vote sous tension au lendemain de l'attentat des Champs-Élysées avec des électeurs dans le doute et des policiers en colère. Une poignée d'entre eux manifestait hier à Paris. Les chercheurs du monde entier marcheront aussi dans les rues aujourd'hui. Une marche pour la science de Washington à Paris contre les mensonges de l'administration Trump. Et puis on terminera avec du sport, du foot et le retour sur la pelouse des joueurs de Bastia une semaine après les violences au stade de Furiani.
Sortie de crise à Cayenne.
Oui, le conflit social qui durait depuis plus d'un mois a enfin trouvé son épilogue. Un accord a été signé entre l'État, les élus locaux et les collectifs qui portaient le mouvement. L'aide d'urgence de plus d'un milliard d'euros est validée et surtout les 2 milliards de plus que réclamaient les collectifs ont été, je cite, actés. En clair, pour cette partie en tout cas, tout dépendra surtout du prochain gouvernement. Conséquence directe de cette signature, la levée des barrages, à l'exception toutefois de celui qui bloque l'accès à la fusée Ariane, la fin des blocages saluée par le MEDEF local et son président Stéphane Lambert.